Nous étions restés donc sur le grand problème de la manière dont saint Thomas pose dans la Somme théologique, question 2, article 3, les cinq voies. Il faut essayer de se faire une idée personnelle et autant que possible selon la vérité de ce que saint Thomas nous dit à propos de ces cinq voies. Nous étions restés à la troisième voie, si vous vous souvenez bien. Bien comprendre la signification de cette troisième voie, qui est la plus verticale, la plus difficile à saisir, la plus raide, mais en même temps, je crois, celle qui est la plus métaphysique. Saisir ce que représente cette troisième voie au niveau du possible et du nécessaire, comme dit saint Thomas. Bien voir le lien entre les deux. Voir comment nous partons de la réalité existante, corruptible, et illuminer cette expérience sous le point de vue du principe de causalité finale, puisque c'est le principe de causalité finale qui est en jeu. Nous ne pouvons remonter à l'existence de Dieu, c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Nous ne pouvons remonter à l'existence d'un être premier que nous appelons, selon les traditions religieuses, Dieu, que en nous servant du principe de causalité finale. Puisque seul le principe de causalité finale peut exister au niveau métaphysique. Le principe de causalité efficiente, nous ne le saisissons pas au niveau métaphysique. Au niveau métaphysique, il n'y a que deux causalités qu'on saisit. La causalité formelle et la causalité finale. La causalité formelle demeure dans l'immanence de l'ousia. Et la causalité finale seule permet de toucher une réalité qui est au-delà. C'est pour cela que je crois qu'on doit dire que toutes les voies de saint Thomas utilisent le principe de causalité finale et non pas le principe de causalité efficiente. C'est pas commode de dire ça parce qu'on doit remonter au-delà d'une tradition qui s'est établie à partir de Occam. On n'a pas suffisamment été attentif, si vous voulez, à ce que représentaient les cinq voies et toute la métaphysique de l'acte et de la puissance. La métaphysique de l'acte et de la puissance a été très vite perdue. Saint Thomas, lui, s'en sert, c'est bien évident. Et vous le verrez mieux après la thèse de notre cher père Brincard sur le point de vue de l'acte et de la puissance chez saint Thomas, de l'utilisation de l'acte et de la puissance chez saint Thomas. Alors à ce moment-là, ça deviendra très évident. Mais il faut essayer de comprendre comment saint Thomas utilise la métaphysique de l'acte et de la puissance. Alors, je ne reviens pas sur la troisième voie, nous l'avons vue. J'espère que vous l'avez comprise. Si vous ne l'avez pas comprise, vous reviendrez en posant vos objections. Mais autrement, j'espère que vous l'avez bien vu et que vous avez vu en parallèle ce que saint Thomas dit dans le De Celo. Vous n'avez qu'à vous rabattre sur le livre, sur les topiques de l'être à Dieu pour comprendre un peu ce que représente ce point de vue de saint Thomas dans le De Celo. Et alors là, vous voyez le parallélisme. C'est un texte intéressant qui éclaire beaucoup ce que saint Thomas nous dit dans la Somme. Je vois tout de suite avec vous maintenant la quarta via, qui est peut-être la plus difficile à saisir. Parce que la tertia, une fois qu'on a compris qu'on était dans l'ordre métaphysique, ça va assez bien. Tandis que la quarta via, c'est sûrement la plus subtile. La Quarta Via a été interprétée par la plupart des commentateurs comme une intrusion du néoplatonisme à l'intérieur du thomisme. Je vais faire une thèse sur la Quarta Via par un étudiant pour étudier l'historique de la Quarta Via. Et il a étudié cela, c'est intéressant du reste. Depuis s'est fait bénédictin, alors très bien. Mais c'est intéressant de voir que la Quarta Via est interprétée par le point de vue de la participation. Alors que saint Thomas ne nomme pas la participation. Et que c'est la seule voie où saint Thomas fait référence à Aristote. Et c'est celle-là qu'on interprète comme une voie néoplatonicienne. C'est très drôle de voir ces choses-là. Parce que, à première vue, ça semble néoplatonicien. Il y a une saveur néoplatonicienne. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une saveur néoplatonicienne qu'elle est néoplatonicienne. Je crois qu'elle reste très strictement aristotélicienne. Vous voyez le passage entre platonisme et néoplatonisme, hein, c'est le point de vue de la causalité de la participation. Ça fait partie de ces grandes disputes. Relisez, ceux qui ont beaucoup de courage, la thèse du père Geiger sur la participation. Alors vous comprendrez qu'en effet, il y a toute une tendance d'interpréter saint Thomas selon le néoplatonisme. Et alors à ce moment-là, on met la participation. C'est très vrai que saint Thomas emploie beaucoup la participation, mais ce qui est très curieux, c'est que dans la Quarta Via, il ne se sert pas de la participation. La participation chez saint Thomas apparaît pour la création, mais pas ici. Alors il faut se poser le problème. Alors il faut essayer de comprendre quelle différence y a-t-il entre causalité et participation. La causalité reste dans l'interrogation du tiesti, et la participation, c'est du côté du pons. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Damasius. Damasius, c'est le dernier des grands néoplatoniciens. Et Damasius dit textuellement que la participation, c'est le pons, c'est le comment. La participation, elle nous est donnée pour des grandes synthèses. Du comment. Elle n'est pas du côté de l'analyse. Or, je ne peux remonter à l'existence d'un être premier qu'en me servant du principe de causalité. Et non pas le principe de participation. Puisque le problème serait déjà résolu. Ce serait le serpent qui meurt sa queue. On aurait un circulus. En partant de la participation. Parce que la participation étant le problème du pons, vous comprenez bien que si je dis que c'est à partir de laisser participer que je remonte jusqu'à laisser premier, le problème est déjà résolu. Dès que je pars de laisser participer, je pars de laisser créer. Dire que laisser créer présuppose le créateur, c'est évident. Si vous partez de laisser créer. Mais je ne peux pas parler de laisser participer que parce que j'ai d'abord posé laisser premier. Alors, je dénomme toutes les autres réalités qui ne sont pas laisser premier, participer. Mais je n'ai aucune expérience de laisser participer. Si vous avez l'expérience de laisser participer, attention. Ça prouve que vous êtes dans un mythe. Vous n'avez aucune expérience à laisser participer. Quand vous regardez votre voisin, vous dites « Oh, magnifique, qu'a laissé participer admirable. » Non, vous ne voyez pas qu'il a laissé participer. Et quand vous vous tâtez le pouls au point de vue métaphysique, vous ne dites pas que vous êtes laissé participer. Vous dites « J'existe. » Mais vous ne dites pas « J'existe. » En dépendance d'un être premier. Vous n'avez pas l'expérience. Oui. C'est là où il faut être très très lucide. Vous n'avez pas l'expérience de laisser participer. Si vous aviez l'expérience de laisser participer, vous auriez l'expérience du Dieu créateur. Parce que je ne peux parler de laisser participer qu'en fonction de laisser parler. Donc j'aurai l'expérience. C'est ce que dit Sainte Catherine d'une autre manière. Elle dit, si j'avais la vision de la grâce, j'aurais la vision de la très sainte Trinité. Si j'avais l'expérience philosophique de laisser participer, j'aurais l'expérience du Dieu créateur. Parce que laisser participer ne peut se comprendre que relativement à laisser premier. Et laisser premier en tant que créateur. C'est pour ça que dans le traité de la création, où on peut parler de laisser premier et de laisser qui est en dehors, on peut parler de laisser participer. Mais ici, où je cherche l'existence de Dieu, je ne peux pas partir de laisser participer. C'est donc ça très important à saisir. Hein? C'est très très important à saisir. Parce que ça, ça fait partie de ces interprétations thomistes qui ne sont pas tout à fait exactes. Alors, entrons dans la quarta via. La quatrième voie procède des degrés qu'on remarque dans les choses. Ex gradibus. Alors, ex gradibus, comprenez bien, ex gradibus. Hein. Saint Anselme partait ex gradibus. Des degrés d'être. Et c'est en ce sens-là qu'on dit tout de suite, ah voilà, voilà la tradition. Bien évident, il y a une saveur immédiate avec Saint Anselme. Or, Saint Anselme ne parle pas de la participation, mais on a tout de suite interprété Saint Anselme avec la participation. Gilson fait ça. Et on comprend très bien, parce que Saint Anselme, ben oui, il est dans un climat platonicien. Alors, on dit les grades d'être, c'est un climat platonicien. Alors, on peut parler des grades de l'être dans une perspective aristotélicienne. Donc la quatrième voie procède des degrés qu'on remarque dans les choses. On voit en effet dans les choses, du plus et du moins, in venitur. Alors on voit, c'est pas tout à fait bien quand on dit in venitur. On découvre, il vaudrait mieux dire ça. On découvre, in venitur, il est trouvé, il est découvert. Dans les réalités, quelque chose de plus et de moins bon. Spontanément, quand vous comparez un frère à un autre, vous dites « celui-là, il est plus bon que celui-là ». Il ne faut pas le faire, mais vous le faites quand même. Hein. En métaphysique, vous avez le droit. Pas au point de vue moral. Mais en métaphysique, vous avez le droit. Dire « ce fromage est meilleur que cet autre fromage ». N'est-ce pas ? Et dans la communauté, ce frère, il me fait davantage comprendre ce que c'est que la bonté. C'est extraordinaire ce qu'il est bon. Aliquid magis et minus bonum. Aliquid verum et minus verus. Donc, on découvre dans les réalités, des réalités plus ou moins bonnes, plus ou moins vraies, plus ou moins noble. La nobilitas s'est attachée à la qualité. Et sic de alis unus modi. Et c'est ainsi des autres choses semblables. Des autres qualités semblables. Mais c'est intéressant que saint Thomas repose donc sur l'expérience du bien, du vrai et de la noblesse, c'est-à-dire la perfection, c'est-à-dire la qualité, la nobilité. Évidemment, le terme nobilitas est assez néoplatonicien, pas très aristotélicien. Pourquoi saint Thomas voit-il ça? Saint Thomas, ne l'oublions pas, est au terme de toute une tradition. Saint Thomas, dans les cinq voies, résume tous les pères de l'Église. Or, il y a un courant néoplatonicien dans les autres. C'est bien évident. Il y a un courant très néoplatonicien. On peut dire que cette voie, la quarta, s'enracine dans les pères de l'Église néoplatoniciens. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est vrai, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que parmi les pères de l'Église, les quantités sont néoplatoniciens. Saint Anselme, entre autres. Et donc, cette quarta via s'enracine dans tout un courant néoplatonicien. C'est vrai, ça. Mais dire que cette quarta via est néoplatonicienne, c'est autre chose. Vous voyez ce qu'il faut. Et on comprend très bien qu'un historien a la tentation de dire, puisque ça s'enracine dans une tradition néoplatonicienne, cette quarta via est néoplatonicienne. Je ne crois pas du tout. Saint Thomas va transformer cette quarta via, la métamorphoser. Et une très belle métamorphose. Fait que c'est difficile, très difficile à bien saisir cette quarta via. Donc, le point de départ, constatation du plus et du moins dans l'ordre du bien, dans l'ordre du vrai, dans l'ordre des qualités. C'est une évidence. C'est une évidence. Vous voyez de l'or plus ou moins pur. Vous dites, cet or est plus pur que celle-là. Cet argent est plus pur que cet argent-là. Sans être des voleurs d'argent, d'argenterie, on a tous ce sens-là. On sait très bien qu'il y a du plus ou du moins. Il y a du plus ou moins bon, il y a du plus ou moins vrai. Bon, constatation d'une certaine hiérarchie dans l'ordre des qualités. Du plus et du moins. Or, le plus et le moins se disent des choses diverses selon que diversement ces choses se rapportent à ce qui réalise le maximum. Ça, c'est le principe. Voilà le principe. Vous voyez que ce principe est tout à fait différent des autres. Hein. Sed magis et minus dicontur. Alors, soulignez le dicontur. Le legetail, hein, le plus et le moins sont dits de diverses choses selon qu'elles s'approchent diversement vers quelque chose qui est maximé. Hein. Si vous parlez du plus et du moins, ça veut dire que vous avez dans la tête une mesure. Voilà ce qu'il nous est dit. Vous avez dans la tête un maximé. Vous avez dans la tête une référence. Autrement, vous ne pourriez pas parler du plus et du moins. Quand vous constatez du plus et du moins, cet homme est meilleur que cet autre. Au nom de quoi vous dites ça? Mais c'est que vous avez dans la tête un maximé. Curieux, miss idéal, maximé, ça me permet de mesurer dans le concours de beauté, ou bien plus ou moins beau, au nom de quoi c'est plus ou moins beau, au nom de quoi, premier prix de beauté, au nom de quoi, il faut un maximé, c'est le jury qui a ça, quand vous faites passer un examen, vous mettez optimé, Sophie Tchanker. Au nom de quoi? Plus ou moins vrai. Ou plus ou moins agréable. Si le professeur est un professeur de rhétorique, et non pas de philosophie, c'est que celui-là, il parle magnifiquement. Oh, c'est extraordinaire. Voilà, un professeur disant après, celui-là, ah, mais il s'exprime facilement. On va lui mettre un optimé. La norme. font, mais ils s'expriment agréablement. Maxime. C'est très intéressant de voir ça. Dans tous les jurys, le plus et le moins, il y a un maximé. Vous comprenez ce que c'est que le plus et le moins, hein? Le plus et le moins. Vrai, bien, noble. Extraordinaire, ça. Ajoutez beau, beau, bien, aujourd'hui, hein, beau. Ça ne demande même pas. Peut-être qu'on pourrait le mettre. Hein. Alors on serait tout proche de Camus. Plus ou moins beau. Parce que c'est la seule chose que Camus reconnaît valable dans notre univers. C'est que le bien n'existe plus, il y a trop de mal, il n'y a plus que le beau. Maximé, plus ou moins beau. Alors, il doit y avoir. Alors, c'est ça qui est très très délicat. Très délicat, c'est le passage à ce principe. Parce que vous voyez bien, ce principe, il a l'air d'être purement subjectif. C'est pour ça qu'il y a eu une thèse qui a été faite sur la Quarta Via. Je l'ai faite tout à fait au début, un étudiant hongrois qui a fait cette thèse en montrant le point de vue de la valeur. En disant la Quarta Via, c'est au fond la valeur. Et on voit très bien comment on peut arriver à dire ça. C'est intéressant, du reste, comme interprétation. Le plus et le moins, puisqu'enfin on est dans le domaine des valeurs, le plus et le moins va permettre d'évaluer. J'évalue. Or, vous ne pouvez évaluer que si vous avez une valeur en vous. Donc un maximum est à l'aise. Donc c'est super. Cette magie, cette minus, dit contour. Je suis dans l'ordre de l'attribution. Je suis dans l'ordre du l'équitable, de l'attribution. Le plus et le moins, dit contour, des diversis, secundum quod apropin quam diversimode ad aliquid quod maxime est. Pour saint Thomas, le maxime n'est pas subjectif. Il est réel. On va essayer de comprendre comme ça. Ça, c'est sûr. Si je dis qu'il y a du plus et du moins, je considère que ce plus et ce moins provient qu'il est plus ou moins proche du maximum, d'une mesure objective. Pourquoi ? Parce que ce bien, ce vrai et ce noble, ils existent. Ils existent. S'ils existent, et que je porte sur eux un jugement objectif, ça implique nécessairement qu'ils sont plus ou moins proches du maximé. Continuons. Hein. Oui, je vais vous montrer la complexité de cette voie. Hein. C'est pas commode. Alors, surtout que saint Thomas donne un exemple. Comme cet exemple n'existe pas, c'est magnifique, hein, à titre d'exemple. Par exemple, on dira plus chaud ce qui se rapproche davantage du maximum de chaleur. Vous l'avez vu, le maximum de chaleur? C'est une mesure que vous fabriquez, c'est vrai, vous mesurez plus ou moins chaud. Le lait ce matin était très chaud. Il était plus chaud qu'hier. Comment ça se fait? C'est plus chaud qu'il y a. Plus ou moins chaud. Puis vous arrivez à 9h30, ah, il est très froid. C'est refroidi. Plus chaud du tout. Tiédasse. Vous avez au-dedans de vous-même une certaine mesure. Une mesure de chaleur. Et pour que ce soit objectif, vous avez toujours un baromètre que vous mettez dedans. Et puis vous voyez quelle chaleur il a. Puis vous pouvez dire, j'ai mesuré objectivement que c'était tiédasse, c'était je ne sais pas combien, 10 degrés. Alors, est-ce que c'est objectif? Objectif à quoi? Alors vous voyez le maxime étalé, le chaud maxime étalé. Comment se fait-il qu'il y a du plus ou moins chaud sans nécessairement qu'il existe ce chaud absolu? Et il y a du plus ou moins chaud. Saint Thomas nous met devant des choses très très simples la question de la mesure. Est-ce que la mesure exige quelque chose d'objectif ou quelque chose de conventionnel? C'est conventionnel quand vous dites que ça atteint tant de degrés. C'est conventionnel et c'est en même temps objectif. Il y a les deux choses. Plus ou moins chose, c'est pas purement subjectif. Mais non. Si vous dites que c'est purement subjectif et qu'un autre dise la même chose et qu'un autre dise la même chose, mais on est tous d'accord. Vous voyez bien que c'est pas objectif. On est tous. Donc il y a quelque chose d'objectif quand même. C'est pas purement subjectif. Le mélange de l'objectif et du subjectif. Il y a donc quelque chose qui est souverainement vrai, souverainement bon, souverainement noble, et par conséquent aussi souverainement être. Car comme le fait voir Aristote dans la métaphysique, vous voyez le bout du nez d'Aristote, dans la prima pars, Aristote n'apparaissait pas. Ici, Aristote apparaît. Pourquoi Aristote apparaît dans la quarta via? Cette nécessité pour saint Thomas de faire apparaître Aristote. Et pas Platon et pas Plotin. Ce qui est souverainement ce qui est souverainement vrai est aussi souverainement être. Nam. Que sont maxime vera, sont maxime ensia. Ut dicitur in duobus metitiorum. Dans les métaphysiques, il est dit que ce qui est maxime vrai est maxime ens. Alors vous voyez, comme raisonnement, c'est très curieux. C'est pas commode. Je vois qu'il y a du plus et du moins dans l'ordre de l'exister. Soulignez bien ça. C'est là où c'est la différence avec la valeur. Je suis dans l'ordre de l'exister. Ce plus et ce moins, bien vrai, noble, dans l'ordre de l'exister, implique nécessairement une référence à un maximé. Comme celui-ci existe, celui-ci existe. Référence avec un maximé. Ce maximé, il est dans l'ordre du vrai, il est dans l'ordre du bien, il est dans l'ordre de la noblesse. Or, le maximé vrai implique le maximé être. Donc, on passe à l'exister. Il existe donc un maximé dans l'ordre de l'être. S'il existe un maximé dans l'ordre de l'être, c'est ce que tous appellent. Difficile la quarta via. Pas commode du tout. Elle est très très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle est, voyez, elle est celle qui est le lien entre une vision idéaliste, néoplatonicienne et une vision réaliste. Je crois que là, saint Thomas veut récupérer, comme on dirait aujourd'hui, saint Thomas veut récupérer les fins fonds de la casserole néoplatonicienne. Vous voyez ? Alors il veut récupérer. Il veut que tout ce que le néoplatoniste dit d'intéressant, on le récupère. Mais en le transformant. En le transformant. Alors ce qui serait intéressant, vous voyez, faites-vous ça vous-même, dans la mesure où vous êtes capable de penser néoplatoniste, d'une façon néoplatonicienne. Faites vous-même la quarta via néoplatonicienne. Et regardez la quarta via telle que saint Thomas la donne. Alors à ce moment-là, vous comprendrez peut-être la métamorphose du néoplatonisme dans une perspective critique telle que saint Thomas nous la donne. Et vous verrez que ce n'est pas néoplatonicien. Il faut le faire vous-même, ça. Parce que si je le fais, vous l'oublierez. Je voudrais que vous le fassiez, ça vaut la peine la quarta via. La quarta via est la plus communicable dans notre monde d'aujourd'hui. Elle est la plus proche des valeurs. Elle n'est pas la valeur, mais elle est la plus proche des valeurs. Elle est la plus proche d'une vision subjective. Et donc, d'une certaine manière, elle est la plus proche d'une pensée idéaliste, qui reste très proche de l'idéalisme. Mais qu'on récupère dans un réalisme. On va essayer de comprendre ça, parce que ça, ça vaut la peine. Hein. C'est un point de vue profond. Alors, d'autre part, ce qu'on dit souverainement tel, maxime étalé, très difficile de traduire le maxime étalé. Le maxime étalé, souverainement tel, je veux bien. En un genre quelconque, est cause de tous les cas de ce genre. Quodotem dicitur maxime étalé in aliquo genere est causa omnium qui sunt illusionis. Alors là, c'est aussi très intéressant. Tout ce qui est maxime étalé dans un genre donné. Alors, comprenez bien, dans un genre donné. Il ne faut pas prendre le genre au sens strict. Puisque le bien n'est pas dans un genre, le vrai n'est pas dans un genre, la nobilitas n'est pas dans un genre. Alors, il faut faire éclater la notion du genre. Hein. Donc, tout. Le vrai n'est pas dans un genre, la nobilitas n'est pas dans un genre. Alors, il faut faire éclater la notion du genre. Hein. Donc, tout ce qui est maxime étalé dans un genre donné. Cause. On passe donc du maximé à la cause. Vous voyez tous ces passages, hein? C'est pas comment on va saisir ça. D'autre part, ce qu'on dit souverainement tel, en un genre quelconque, est cause de tous ceux qui sont de ce genre. Comme le feu chaud au maximum et cause de la chaleur de tout le reste, ainsi qu'il est dit dans ce même livre. Ça, c'est l'exemple de saint Thomas. Ce sont ces exemples qui sont très très délicats, parce que c'est pas commode de voir ça. Quodotem dicitur maxime étalé in aliquo genere est causa omnium que sunt ius generis sicut ignis que est maxime calidus est causa omnium calidorum, in eodem libro dicitur. Donc, il y a quelque chose qui, pour tous les êtres, est cause d'être, de bonté, de vérité et de toute perfection. C'est ce que nous disons toujours. Donc nous aboutissons à poser à partir de là la cause d'être, la cause du bien, la cause du vrai, la cause de toutes les qualités. Eh bien celle-là, c'est ce que nous disons Dieu. Dieu est cause, selon les traditions religieuses. Alors, je reprends rapidement hein, la Quarta Via, après l'avoir lu avec vous. Alors, soulevez toutes vos objections. Si vous n'en avez pas, vous êtes médusé dans la Quarta Via, très très bien, restez séduit. Mais si vous êtes en opposition, alors il faut faire crever tous les abcès. Opération chirurgicale. Il faut faire crever tous les abcès pour essayer de saisir la ligne directe au niveau de l'être. Pour découvrir le roc. Alors, vous voyez bien, je pars de l'expérience. J'illumine cette expérience par un principe. Un principe, c'est l'expérience plus et moins. Le principe me fait découvrir qu'il y a un maximum étalé. Puis, de l'expérience, je passe, troisièmement, du maximum étalé. Je passe au maximé ex. Maximé étalé verum ou bonum. Je passe à ex. Du maximé ex, je passe à la cause. Et de la cause, je passe à Dieu. Il y a bien cinq moments. Vous avez cinq niveaux d'intelligibilité. Alors, il faut voir si ces cinq niveaux d'intelligibilité je passe rigoureusement de l'un à l'autre. Ici, je télescope. C'est assez beau, hein, de passer du plus et du moins bon à Dieu. Dès que vous constatez du plus et du moins bon, Dieu existe. Si vous êtes très intelligent, si vous arrivez à bien saisir, vous arrivez à lire intérieurement que du maxime étalé, il existe Dieu. Mais alors faisons attention, ne télescopons pas trop vite et voyons tous les paliers. Il y a trois paliers. Trois paliers qu'il ne faut pas télescoper. Qu'il faut donc saisir. L'argumentation qui est complexe, hein, qui n'est pas simple du tout, c'est une argumentation complexe. Bon, l'expérience du plus et du moins dans l'ordre du bien. Très très important. Cette expérience implique le jugement d'existence. Parce que si cette expérience est prise uniquement au niveau des valeurs, je ne prouve rien du tout. On a voulu donner une preuve de l'existence de Dieu par les valeurs. C'est le dernier Husserl. Dans les écrits inédits de son vivant qui ont été édités après sa mort. Et alors, c'est intéressant d'être en parallèle, vous voyez. Traduisez, c'est-à-dire interprétez la quarta via au niveau des valeurs. Vous avez eu ça. Ça ne prouve rien. Husserl parle des valeurs sans parler du jugement d'existence, forcément. Alors, les valeurs exigent de poser une valeur absolue, la valeur par excellence. Et Husserl, dans les inédits, dit « cette valeur absolue, c'est Dieu ». Je vous dis, on a essayé d'interpréter cette quarta via de cette manière-là. Bon, alors je dis non. Ce n'est pas une valeur, c'est un jugement d'existence à l'égard d'une réalité qui existe. Le bien, quand je dis plus ou moins bon, le bien existe. C'est ce bien particulier qui existe. Donc le jugement d'existence est présent dans ce plus et ce moins. C'est le bien, c'est le vrai, c'est le noble. Donc ils existent. C'est capital de comprendre ça. Si le jugement d'existence n'est pas explicité, alors, à ce moment-là, vous êtes uniquement dans une estimation de valeur. L'estimation de valeur reste dans l'ordre formel et n'atteint pas le jugement d'existence. C'est très net pour Husserl. C'est très très net. Si je reste avec le jugement d'existence, je peux alors comprendre que, en effet, le plus et le moins bon implique référence à un maxime étalé dans l'ordre du vrai, dans l'ordre du bien, dans l'ordre de la noblesse. Ce maxime étalé, comme tel, est au niveau de la cause exemplaire. Donc c'est la cause exemplaire. À partir du plus et du moins, je découvre le maxime étalé. C'est la cause exemplaire. Et je précise tout de suite que cette cause exemplaire existe. Ah. Alors, c'est le passage de 2 à 3 qui est très très intéressant. Qui est très très intéressant, vous voyez, parce que ce maxime étalé, s'il est uniquement dans ma tête, la cause exemplaire est peut-être uniquement dans la tête de l'artiste. L'artiste a un plan et dit « Ah, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu. » Donc le maxime étalé existe dans un plan, comme un projet. Et saint Thomas signale tout de suite que ce maxime étalé, il existe.
Mais pour bien faire comprendre qu'il existe, il en appelle à Aristote.
Ça ne veut pas dire que saint Thomas n'est pas tout à fait convaincu. Parce que saint Thomas nous dit qu'on fait appel à l'autorité quand on commence un petit peu à voir double. Alors on s'appuie sur l'autorité. Saint Thomas ici s'appuie sur Aristote, sur la métaphysique, le second livre des métaphysiques. Et Aristote, en effet, nous montre le parallélisme qui existe entre le vrai et l'être. C'est le fameux problème de la convertibilité. Faites grande attention. On dit que du vrai, je peux parler à l'être. Je peux passer du vrai à l'être. Je peux passer du bien à l'être. Pourquoi ? Parce que le bien et l'être sont convertibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et on s'appuie sur Aristote, ce moment-là. On s'appuie sur Aristote pour dire que ce maxime étalé, il est dans l'ordre de l'être. Et une fois que, on va y revenir là-dessus, une fois que j'ai montré qu'il était dans l'ordre de l'être, j'ai dit que ce maxime étalé, il est cause. Donc, la cause exemplaire est réelle. Elle est cause de l'être. Donc, elle n'est pas seulement cause exemplaire. Elle est aussi cause efficiente. Ou cause finale. Elle est cause de l'être. Et ce qui est cause de l'être, c'est ce que nous avons vu. Donc, vous voyez que tout le nerf de l'argument, tout le nerf de l'argument pour maintenir le réalisme, c'est entre deux et trois. Je crois que tout est là. Puisque tout le reste découle. La montée, ça va. La descente, ça va aussi. Pas de problème. Ce qui est difficile, c'est le passage du maxime bonum au maxime indice. Le passage de ce qui est maximé dans l'ordre du vrai, maximé dans l'ordre du bien, qui est maximé dans l'ordre de l'être. Et saint Thomas, très conscient que c'est ça le point de vue important, il s'appuie sur Aristote. Et c'est là où vous changez de registre par rapport entre les néoplatoniciens et l'aristotélisme. Et c'est pour ça qu'à partir de là, vous pouvez parler de la cause. Une cause qui n'est plus seulement la cause exemplaire. Donc, c'est ce point de vue-là qu'il faut saisir. D'une façon générale, on parle, vous voyez que saint Thomas, au sens propre, si vous êtes attentif, si vous êtes attentif au langage de saint Thomas, je le relis, pour que vous voyez bien. « Est igitur aliquid quod est verissimum, optimum, nobilissimum. Et per conséquence, maxime ens. Namque sunt maxime vera, sunt maxime entis. » Saint Thomas ne parle pas de convertibilité. Ça, c'est les commentateurs. Ils ont parlé de convertibilité. Je n'en parle pas. Il ne faut pas en parler. Parce que la convertibilité, c'est ça qu'on va tout de suite voir. Parce que c'est ça qui a fait toute la difficulté. La convertibilité. Quand je dis que l'être, que le vrai, est convertible avec l'être, qu'est-ce que ça veut dire ? La convertibilité. C'est la convertibilité des transcendentaux. Qu'est-ce que ça veut dire la convertibilité ? La convertibilité veut dire que l'être, que le vrai est convertible avec l'être parce que la signification de la ratio veri a la même extension et la même compréhension que la ratio optis. Je suis donc au niveau des rationnels. Dès que je parle de convertibilité, je suis au niveau des rationes, traduisez des concepts. Je suis au niveau des concepts. Je suis au niveau des concepts en regardant leur attribution, leur capacité d'attribution. Et quand je dis que l'être, que le vrai a la même convertibilité que l'être, je veux dire que le concept de vrai est adéquat au concept d'être, en ce sens qu'ils ont la même extension et la même compréhension. La convertibilité implique même extension et même compréhension. Donc je suis au niveau des rationes, je suis au niveau des concepts. Si je suis au niveau des rationes et des concepts, je suis au niveau de l'intelligibilité. Je ne suis pas au niveau du réel existant. Or, je ne peux jamais passer de l'intelligibilité au réel. Et donc, si je suis simplement au niveau de la convertibilité, je ne peux pas passer de 3 à 4. C'est pour ça que c'est très important de souligner que Saint-Thomas ne parle pas de convertibilité. Saint-Thomas parle de convertibilité dans ce fameux lieu qu'il faut avoir lu, De Veritate, question première, article premier. Il faut en faire une traduction, ceux qui sont des bons latinistes en font une traduction pour ceux qui sont des moins bons latinistes. Vous voyez, le plus et le moins. N'est-ce pas ? Et donc, ceux qui sont des bons latinistes devront faire une traduction de cette question première, article premier, du De Veritate, question 1, article premier, là, ils rendent un service au bien commun s'ils sont de bons latinistes. Pour les moins bons, plus et moins. N'est-ce pas ? Pour les moins bons latinistes qui auront de la peine et qui perdraient du temps. Alors, s'ils ont une bonne traduction, ils ont le texte latin à côté, ils le regardent, et puis ils essaient de comprendre ce que saint Thomas nous dit dans le De Veritate, question 1, article 2. Et dans le De Veritate, question 1, article 2, saint Thomas nous fait comprendre la convertibilité de la ratio boni avec la ratio unitis. De la ratio veri avec la ratio unitis. Il nous fait comprendre ce que c'est que la convertibilité. On est au niveau des rationes, on est au niveau des attributions qui ont la même extension et la même compréhension. Tandis qu'ici, je ne suis pas au niveau des rationes, je suis au niveau du maximétalé. Or, ce maximétalé, il existe. Donc, il n'est pas une raison, il n'est pas un concept, il est une réalité. Et je peux dire à ce moment-là que le maximé, dans l'ordre du vrai, s'identifie au maximé dans l'ordre de l'être. Je ne suis pas converti, s'identifie. Et une fois que j'ai découvert le maximé dans l'ordre de l'être, je peux dire que ce maximé dans l'ordre de l'être, il est cause de l'être. Et là, je montre le principe que tout ce qui est maximé dans un genre donné est cause de tous les autres. Ça, c'est de l'aristotélisme pur. Ce qui est premier dans un genre donné est cause de tout le reste. Ce qui est premier, qu'est-ce que c'est que la cause ? La cause est ce qui est premier. La cause est principe. Donc, ce qui est premier dans un genre donné, mais premier non pas selon l'ordre génétique, puisque c'est maximé. Donc, c'est premier dans l'ordre de perfection. Ce qui est premier dans l'ordre de perfection est nécessairement cause de tout le reste. Et alors, à ce moment-là, je montre qu'il y a un lien de dépendance existentielle entre le premier et tous les autres. Et c'est pour ça que je peux à ce moment-là passer ce premier dans l'ordre existentiel et cause, et il est vraiment Dieu.
Donc, la difficulté, je réinsiste, la difficulté, c'est le passage du maximétallé verum au maximétallé ens. Et la difficulté est très grande parce que nous avons dans l'esprit la convertibilité. Et tous, on traduit ce passage de la convertibilité. Pourquoi ? Parce que à partir de Suarez, faut toujours bien voir les bons tournants, à partir de Suarez, la convertibilité, qui est une notion critique, est devenue le premier moment métaphysique. Suarez commence sa métaphysique, cette disputationes métaphysique, par le problème de la convertibilité de l'être avec le vrai, avec le bien, avec l'âme. Alors que ce problème de la convertibilité n'est pas un problème métaphysique, il est un problème critique. C'est ce passage, cette confusion qui s'est faite, qui fait qu'à partir de ce moment-là, on est passé de l'intelligibilité à l'exister. Passer de l'intelligibilité à l'exister est propre du néoplatonisme. Alors réfléchissez bien à cette quarta vie.